Chers frères et sœurs, je voudrais commencer par une manière un peu paradoxale d'introduire, de commencer une homélie, mais qui va constituer à vous faire travailler. D'une manière qui va vous paraître assez légitime, assez simple, assez évidente, mais sur laquelle je pense que nous passons souvent un peu vite. Et cette manière de travailler, elle consiste à dire tout simplement, à vous dire intérieurement, quelques secondes, dizaines de secondes, qu'est-ce que moi je retire de cette liturgie de la parole que l'Église m'a proposé d'entendre dans la messe dans laquelle je commence à participer. Parce qu'il n'est pas possible que le Seigneur ne commence à travailler qu'à partir du moment où j'ouvre la bouche. Le Seigneur est dans nos cœurs. Alors peut-être qu'il a commencé à travailler dans le cœur de tel ou tel qui a lu les textes de cette liturgie d'aujourd'hui pour se préparer à cette liturgie. Mais pour un certain nombre, il est bien possible que pour la totalité des textes, vous les découvrez en même temps qu'ils ont été proclamés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été surpris? Vous avez été consolé? Vous avez été éclairé? Un mot vous a touché, une expression, vous avez ressenti quelque chose. Que s'est-il passé? Votre cœur sommeillait-il? Alors je vous laisse quelques secondes et je voudrais bien que vous vous disiez, oui, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que l'Esprit-Saint a commencé à faire en moi? Peut-être deuxième paradoxe, c'est que je commence par la fin. Est-ce que vous avez été, peut-être entre autres, touché par le fait que nous avons la vision de l'évangéliste Jean lorsqu'il écrit son évangile? Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc le récit de l'évangéliste n'est pas celui d'un journaliste, n'est pas celui d'un historien, n'est pas celui éventuellement d'un sociologue, enfin, on peut. Il est celui de quelqu'un qui, ayant lui-même fait une expérience par rapport à un certain personnage, souhaite pouvoir transmettre cette expérience et la possibilité de vivre cette expérience. Et cette expérience, elle est Jésus et le Christ, le Fils de Dieu. Le Christ, le Messie, loin de Dieu, celui que Dieu nous envoie pour réaliser les promesses qu'il a faites à Israël. En croyant, vous aurez la vie en son nom. La visée de l'évangéliste Jean, c'est de nous mettre en rapport avec ce Jésus et par une certaine relation que nous saurons établir et nourrir avec lui, nous pourrons reconnaître qu'en lui est la vie et que donc vivre dans une relation, on va dire positive, vivante, active, renouvelée au fur et à mesure que le temps passe, nous sommes en contact, en relation avec Dieu et nous accédons à la vie. Et la vie de Jésus, de ce Jésus, et alors nous commençons à remonter l'histoire, de ce Jésus plus fort que la mort, de ce Jésus qui vient rejoindre nos doutes, de ce Jésus qui vient aussi nous rejoindre dans nos peurs, de ce Jésus qui vient nous relever alors que nous pouvons être enfermés, harassés, cassés, de ce Jésus, voilà, qui vient nous dire que nous avons du prix aux yeux de Dieu, que nous sommes faits pour la vie. Et alors, nous reviennent à l'esprit ce que Jésus a pu dire. Il est venu aux noces de Cana. Il a rencontré cette Samaritaine. C'est toujours dans l'évangile de Jean, tout cela. Hein? Il a rencontré la Samaritaine. Et puis, il a guéri l'aveugle-né. Il a ressuscité Lazare. Il a enseigné les foules, ses apôtres. Et puis, il leur a promis une force d'en haut. Voilà. Celui dont Jean a fait l'expérience, il nous le présente et il nous dit, si nous voulons bien, les raisons pour lesquelles nous aussi nous pouvons faire cette expérience et les raisons pour lesquelles nous pouvons entrer dans la vie et nous pouvons aussi reconnaître qui est ce Jésus, non pas simplement un trublion d'une certaine période de l'Empire romain, non pas un sectaire du judaïsme, non pas d'autres choses encore, mais le Christ, le Fils de Dieu, Jésus, Dieu sauve. Alors, nous sommes ainsi invités à remonter l'histoire de ce Jésus. Contentons-nous de ce que nous disent les quelques versets qui précèdent cette vision, la vision nous est présentée dans l'Apocalypse, cette visée de l'évangéliste Jean. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce Jésus apporte à la fois quelque chose et donne part à une mission qu'il a lui-même reçue. Ce qu'il apporte, c'est la paix. Vous avez entendu à une reprise, puis une deuxième reprise. Et comme en écho, ce qui nous est dit dans l'Apocalypse, ne crains pas. La paix. On peut peut-être être étonné. Pourquoi? Parce que nous nous rappelons ceux à qui le Seigneur Jésus dit la paix, c'est une dizaine de bons hommes qui se sont débandés. Ils ont déguerpi. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, c'est parti comme une volée de moineaux. Bon, il y en a un qui est resté, deux qui sont restés. Mais il y en a un alors même qu'il avait été prévenu. De fait, ironie, une fois, deux fois, trois fois. Pourtant, Jésus l'avait prévenu. Pierre lui avait dit, je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui dit, fais attention parce que viendra le moment où voilà, tu me renieras. Alors, il y a le petit dernier, enfin celui qu'on dit le petit dernier, parce que bon, dans la tradition, il est vraisemblablement le plus jeune et celui qu'on retrouve dans l'évangile de Jean et celui qu'on retrouve à l'Apocalypse. Mais le plus jeune, alors lui, oui, il est fidèle. La jeunesse fidèle, je ne sais pas, on peut réfléchir là-dessus. Mais enfin, bref, voilà. La paix à ces bons hommes qui se sont certes retrouvés le moment, enfin après la tempête, on pourrait dire. Mais quand même, ils ne doivent pas être très paisibles en leur intérieur. Puis ils ne sont pas paisibles aussi pour d'autres raisons. C'est qu'ils se disent, non seulement on ne peut pas être fier vis-à-vis de Jésus, mais en même temps, on est quand même connu plus ou moins comme des gens, des proches de ce Jésus qu'on a arrêté, qu'on a condamné, qu'on a mis à mort. Donc nous-mêmes, il faut la jouer modeste. Il faut être tranquille. Enfin, il ne faut pas se faire remarquer. Donc on s'enferme. On disparaît. Donc voilà un autre motif de peur. Et voilà que Jésus vient les rejoindre dans ce lieu, dont les portes sont closes, mais dans ce lieu qui est aussi un lieu, on pourrait dire, psychique, moral, spirituel, d'enfermement, de crainte. Est-ce que ça n'est pas celui que nous pouvons connaître un peu, pour dire différents motifs, différentes raisons? Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas un peu enfermés dans certaines peurs? La peur de l'avenir, peut-être. La peur de notre vocation, quand est-ce que je vais la rencontrer ou quand est-ce que je vais le rencontrer? Je parle d'un éventuel conjoint. Je parle du Seigneur, vous avez déjà commencé à le rencontrer. Voilà. Mais, et puis voilà, qu'est-ce qui va se passer? Les peurs parce que tel ou tel membre de la famille peut-être est en situation difficile. Puis peur pour l'avenir parce que cette société dans laquelle nous sommes, elle est par certains côtés bien inquiétante. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir dans une société qui déstructure un peu les repères dont nous sentons bien que nous en avons quand même un peu besoin? Qu'est-ce que nous allons devenir devant une mondialisation qui réduit à peu les terroirs, les références qu'on peut avoir culturelles? Qu'est-ce qu'on peut devenir par rapport à des migrations qui sont déjà inquiétantes alors qu'on n'en est qu'au début de ce phénomène, puisqu'on sait nous dire par ailleurs qu'il y a des raisons climatiques qui vont entrer en ligne, pas simplement les questions de guerre, non, mais il y a des raisons climatiques qui vont amener des déplacements considérables de population. Qu'est-ce que ça va faire? Et puis, on était dans une terre catholique, on était dans une terre chrétienne, on en a ici des vestiges magnifiques, on les restaure même. Mais demain, déjà aujourd'hui, dans certains lieux, on se dit, mais on n'est plus chez nous. On parle, même des chrétiens qui sont à quelques milliers de kilomètres, pas si loin que ça finalement, ben, ils sont persécutés, ils sont renvoyés, ou bien on leur dit, tu te convertis, ou bien semble-t-il, on les met à mort comme le Seigneur. Bref, les raisons pour lesquelles nous pouvons être enfermés, craintifs, sont, je ne vais peut-être pas dire nombreux, mais enfin, ils existent. Et peut-être qu'il nous frappe, nous, personnellement. Et voilà que quelqu'un vient, comme aux apôtres, leur dire, nous dire, la paix soit avec vous. Et comme il le dit plusieurs fois, ça veut dire qu'il ne faut, il faut pas se dire, ah bah d'accord, on passe l'éponge, et puis, enfin, vous voyez, on peut se reprocher par rapport à Dieu, parce que parfois, on n'est pas si, on est, voilà, on renie, on ne sait pas parler, on ne sait pas défendre notre foi chrétienne, en témoigner, etc., etc. Voilà que c'est pas simplement ça, un coup d'éponge. C'est une paix profonde dont le Seigneur veut nous habiter. Une paix qui nous vient du prix que nous avons aux yeux de Dieu. Une paix qui nous invite non pas à regarder simplement les vents contraires qui nous menacent et qui nous font douter, mais Jésus, qui par amour pour son Père et par amour pour nous, a été victorieux. C'est la signification et la réalité qui découle, qui est celle de la résurrection. La mort est vaincue. La mort, pas la mort biologique, ou pas seulement. La mort, ce fracassement, je ne sais pas comment dire, pour que ce soit vraiment, de ce qui est, de ce que sont nos relations, nos espérances, nos projets merveilleux, nos amours, nos amitiés, notre joie d'exister, ou notre désir peut-être d'exister mieux, de réparer, enfin, etc., etc. Le Seigneur vient rejoindre tout cela, il vient nous dire une paix qui vient de Dieu, et donc qui est une paix qui peut habiter nos cœurs alors même que les motifs humains d'inquiétude peuvent exister, peuvent perdurer, la paix de Dieu. Puis ça n'est pas tout. Mais voilà que celui qui dit « la paix soit avec vous » dit à ses apôtres « allez, c'est pas le tout maintenant, mais il va falloir sortir ». C'est-à-dire, c'est pas « bon, ben, maintenant, vous me laissez tranquille et vous me laissez faire ». Ne vous faites plus remarquer, soyez sages, non, recevez l'Esprit Saint, et ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur seront remis, recevez l'Esprit Saint. Jésus revient à quelque chose qu'il a déjà dit précédemment, vous recevrez une force d'en haut, elle vous mènera, elle vous rappellera tout ce que je vous ai dit, elle vous mènera à la vérité tout entière, elle sera pour vous une force qui vous habitera même dans les moments les plus critiques. Vous n'aurez pas à préparer tant que ça votre défense, si tant est que vous êtes vraiment unis à moi. Voilà, la paix, recevez l'Esprit Saint, et puis, voilà, aller en avant. Il ne nous démobilise pas par sa paix, au contraire, il nous mobilise et il nous donne part à sa propre mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ce n'est plus le moment de regarder à vos peurs, etc. La mission que j'ai reçue, je vous la confie. Et nous sommes comme les apôtres l'ont été. J'en suis pour vous, j'espère, non pas à cause de moi, mais à cause de ce que je représente. Le signe, la mission que Jésus a confiée à ses apôtres, au Cénacle, il nous la confie à nous aujourd'hui. Alors la mission des apôtres est une mission tout à fait singulière, mais n'empêche que c'est à travers la mission qu'ils ont eux-mêmes reçue qu'ils nous donnent mission, à nous aussi, d'être les témoins de cette paix. Et qui plus est, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils seront remis, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu pour les hommes. Une miséricorde qui relève, qui ouvre, qui donne une espérance, un avenir. Qui muscle, si vous voulez, ce n'est pas une miséricorde un peu niaise, un petit peu guimauve, un petit peu... comment on pourrait dire, qui coupe l'énergie, qui tarile. Non, c'est au contraire, elle envoie, elle donne force, parce que la miséricorde, l'amour de Dieu pour nous ne se décourage pas face à nos peurs, face à nos surdités, face à nos cécités, face à tout ce qui peut, quelque part, nous encombrer, nous empêcher d'avancer. Allez, la paix, recevez l'Esprit Saint debout. Allez, ah non, dites ma miséricorde. Les péchés sont remis. C'est-à-dire, nous savons le péché, il nous faut relire les péchés, parce que ce que peut signifier le péché, non pas d'abord à la mesure de catalogue qu'on peut faire, mais le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui nous détourne de Dieu, ce qui nous sépare de Dieu. Et comment ? Par le manque d'amour. Dieu aime et nous n'aimons pas. Et nous n'aimons pas. Mais Dieu aime et nous pouvons sans cesse revenir à la source. Jamais tari de cet amour de Dieu pour nous et pour nos semblables qui eux-mêmes sont appelés à accueillir cet amour, à en vivre et à le partager. Voilà, c'est tout ça qu'il nous faudrait pouvoir reprendre, dans lequel nous devrions pouvoir comme demeurer, comme dit l'apôtre Jean lui, comme dit l'évangéliste Jean lui-même. Demeurer dans cette paix pour qu'elle pénètre dans toutes ces zones d'ombre, d'enfermement, de peur qui sont les nôtres. Recevoir l'Esprit Saint, nous l'avons, je pense que vous êtes tous confirmés. Je ne vais pas faire un sondage, mais s'il y en a qui n'étaient pas confirmés, il n'y a pas d'âge. Hein, il n'y a pas d'âge. Il y a peut-être un âge, dans la tradition latine, on ne confirme pas au baptême. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas d'âge, c'est-à-dire il n'est jamais trop tard. Mais pour recevoir ce signe, ce don, cette communication de l'Esprit Saint qui adapte cet être que nous sommes à la mission qui est confiée par le Seigneur. Nous sommes enrichis des dons de l'Esprit pour servir, pour être témoins de cette paix, de cette miséricorde, de cet appel à vivre et à aimer comme le Christ dans toutes les situations de notre vie. Pas seulement quand nous allons à la messe, pas seulement lorsque nous prions, mais dans toutes les dimensions de notre vie, personnelle, affective, professionnelle, voilà, enfin, etc. Tout ce que nous sommes. Je voudrais terminer par ceci. Il y a bien d'autres choses. Il faudrait dire, parler de Thomas. Bon, alors je parle de Thomas quand même un petit peu pour dire que Thomas, c'est un vigoureux. Et puis, il se laisse pas convaincre par les 10 autres. Bon, pourtant, il les a suivis. Enfin, on nous parle de Thomas à un autre moment. Il essaye de prévenir Jésus que ça va mal se passer à Jérusalem. Et puis Jésus dit, mais on y va quand même. Alors, semble-t-il, Thomas, il dit, allons-y quand même, puisqu'il veut y aller. Bon, il a du caractère quand même. Hein. Mais voilà que, il ne croit pas. Il se dit, moi, je veux égalité entre nous. Hein. Donc, ce que vous avez vécu, moi, je veux le vivre aussi. Et Jésus se laisse faire d'une certaine manière, l'humilité de Jésus. Il ne lui fait pas la morale. en lui disant « Quand même, ça fait 3 ans qu'on vit ensemble, tu devrais connaître quand même, d'accord, leur pauvreté, leurs limites de tes frères, mais quand même. » Non, non, allez, viens, viens, regarde mes plaies, mets ta main, ton doigt, cesse d'être incroyant, incrédule et sois croyant. Voilà, comme pour nous dire à nous aussi, nous savons bien, nous avons le témoignage de l'Église depuis 2000 ans, des figures de saints extraordinaires, et certaines nous les avons connues. Bon, il y a 10 ans, vous aviez 10 ans de moins, comme moi d'ailleurs, mais enfin bon, vous étiez très jeune, moi j'étais un peu moins. Et puis, Jean-Paul II, et puis d'autres qui sont quand même aussi récents. Des figures que le Seigneur nous donne pour nous dire, mais cet évangile, c'est pas, excusez-moi cette mauvaise expression, mais c'est pas du flan, c'est pas de l'illusion, c'est pas du virtuel, comme si on pouvait dire du virtuel n'est pas du réel, c'est vrai. Alors Thomas, il est celui auquel nous pouvons nous confier lorsque, à certains moments donnés, notre route est plus difficile. Pour quelque raison que ce soit, où il est plus difficile de réengager notre liberté, notre volonté à la suite de Jésus. Parce qu'on trouve que Jésus, parfois, il est compliqué, on ne comprend pas ce qu'il fait, on ne comprend pas où il est, on ne comprend pas comment il s'y prend, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui il ne continuerait pas à faire tous les signes qu'on aimerait bien qu'il fasse, ça faciliterait les choses. Voilà, Thomas. Alors, je finis par ceci. Keep ton cap, je crois, c'est ce que vous... Eh bien, cet évangile de Jean nous donne aussi un cap. Je vais l'aborder par un biais tout à fait singulier. Vous avez entendu au début de l'évangile qui nous est dit ceci, c'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les apôtres étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. L'évangéliste Jean, vraisemblablement à la fin du premier siècle, lorsqu'il écrit cet évangile, rappelle « en ce premier jour de la semaine ». Ça n'est pas un journaliste, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas un historien. Et il fait mention de cet élément temporel, ce premier jour de la semaine. Vous savez peut-être qu'il y a une époque où on se disait, Jean, c'est un spirituel. Il n'y a pas beaucoup d'historique, de réel, d'incarné chez Jean. Et puis, chemin faisant, on s'est aperçu que Jean n'était pas... Voilà, quelqu'un qui était évaporé, si vous voulez dire. Il était bien réel. Et il nous dit ici, en ce premier jour de la semaine. Cela signifie quoi? Cela veut dire qu'il s'adresse aux communautés pour leur dire, nous nous réunissons nous aussi, parce que nous le savons par d'autres écrits, nous nous réunissons le premier jour de la semaine. Ce premier jour de la semaine, ce n'est pas le jour des Juifs. Les Juifs se réunissent le dernier jour de la semaine, au jour où Dieu se repose, après la création. Nous, c'est au premier jour de la semaine, le jour d'une création nouvelle, celle qui est initiée, inaugurée par la résurrection du Seigneur. C'est elle qui nous introduit dans la vie. Et donc il rappelle, vous voyez, ce que nous faisons aujourd'hui, en réalité, c'est le Seigneur qui nous en a donné, je dirais, comme le fondement. C'est lui qui s'est manifesté le premier jour de la semaine à ses apôtres. Et puis, une première fois, mais aussi 8 jours plus tard. Et nous savons donc que le dimanche, il est d'institution, on pourrait dire, de Jésus et apostolique. Et quand l'Église nous invite aujourd'hui à nous retrouver le dimanche, elle nous invite tout simplement à nous rappeler un fondement voulu par Jésus. Jésus, au jour même où il veut donner la paix, donner l'esprit, envoyer participer à sa mission ceux qui veulent bien accueillir, et sa paix et l'esprit, il veut le faire encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, lorsque nous nous rassemblons, eh bien, nous sommes ceux qui nous inscrivons dans une tradition, mais vous voyez quelle tradition. Et pourquoi ? Parce que dans l'Eucharistie, nous est donnée la paix. C'est comme ça que je vous salue au nom du Seigneur qui a confié cette mission à ses apôtres et à leurs successeurs. Je vous ai donné la paix. Recevez l'Esprit Saint, nous l'avons invoqué, nous l'invoquerons dans la prière eucharistique. Et puis cette participation à la mission, eh bien, il est vrai que si, lorsque nous quittons cette magnifique église, nous sortons dehors et nous nous disons simplement « Ouh, il fait plus chaud dehors que dedans », ce sera vrai, mais peut-être que quand même il y a d'autres fruits à l'Eucharistie que nous aurons célébrés, que le froid donc, qui peut-être nous bah, bon, donc... Ça veut dire que ce que nous aurons vécu, célébré, entendu, fait, ce que nous aurons pu dire dans ces quelques moments de silence que nous pouvons à certains moments donner, avoir, si ça ne produit pas quelque chose à l'extérieur, alors eh ben on est dans le rite. Alors ça peut rassurer, j'ai eu ma messe, je suis rassuré. D'accord, mais si j'ai eu ma messe, c'est bien parce que le Seigneur a voulu nous rassembler, premier jour de la semaine, mais c'est pour faire quelque chose. Avec nous, c'est pour renouveler notre relation avec lui, c'est pour nous recommuniquer, entre guillemets, sa vie, c'est pour que sa vie en nous puisse faire que nous puissions être les bénéficiaires de la paix, mais aussi les serviteurs de la paix de Dieu, les porteurs de l'Esprit Saint, mais pour dire la miséricorde de Dieu, comme le pape François nous le dit d'une manière plus forte, encore plus vigoureuse, etc., etc., pour que cette vie du Christ, le Fils de Dieu, le Christ, le Fils de Dieu, pour que sa vie, sa résurrection agisse et féconde notre vie et agisse à travers toute notre vie. Seigneur Jésus, nous voulons ensemble te glorifier pour ta résurrection. Oh, il y a bien des choses qui nous dépassent. Il y a bien des limites que nous pouvons mettre de notre intelligence ou de notre liberté à accueillir cette bonne nouvelle. Mais dans cette Eucharistie où tu nous rassembles ce matin, nous voulons te redire notre joie de te connaître et de t'aimer déjà. Comme tu as su le faire en tes apôtres, en Thomas, renouvelons-nous et la paix et l'espérance et la force de l'amour grâce à ton Esprit Saint. Nous voulons te redire, Seigneur, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, non pas simplement pour nous rassurer psychologiquement, mais pour vivre comme tes apôtres, comme François, le pape François, comme saint Jean-Paul II, comme les saints, comme tous les chrétiens que l'Église nous présente en modèle l'ont manifesté, ont su le vivre. Seigneur, accueille-nous, voulons être tes amis. Accueille-nous, renouvelons-nous l'Esprit Saint. Envoie-nous.